Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Pierre Joliot. Tu es le fils de deux grands scientifiques et le petit-fils de deux grands scientifiques. Comment s'appelle-t-il ?
Mes grands-parents sont Pierre et Marie Curie. Mes parents sont Frédéric et Irène Joliot-Curie. Ils ont tous les quatre eu le prix Nobel, Marie Curie deux fois en plus. Ce qui est effectivement quelque chose qui est un peu lourd à porter. Ces deux prix Nobel de deux couples successifs sont souvent mis en valeur en comparaison. Il faut simplement souligner que les relations hommes-femmes, dans le cas de Pierre et Marie Curie et Frédéric et Irène Joliot-Curie, sont exactement inversées, en sens que Marie Curie est arrivée comme étudiante alors que Pierre Curie était un chercheur de premier plan confirmé, et que quand mon père a été convaincu par Paul Langevin de se proposer comme préparateur pour Marie Curie, Marie Curie est l'amie sous la direction de ma mère, qui terminait sa thèse alors que lui n'avait pas son second bac. Il avait fait l'école de physique et chimie, mais il n'avait ni licence ni second bac.
Ton père est né en quelle année ?
1900.
Et ta maman ?
97.
Avant d'écouter Pierre nous parler de la recherche scientifique de son père pendant la guerre, il me faut quand même rappeler que Pierre Joliot est aussi un grand scientifique, biologiste, professeur honoraire au Collège de France, médaille d'or du CNRS en 1982, membre de l'Académie des sciences.
Alors, avant l'Exode, toutes les familles, tous les enfants et les femmes, sauf le cas de ma mère, de ce groupe un peu particulier qui avait en Bretagne, est resté en Bretagne, c'est-à-dire que moi et ma sœur, nous avons passé plus d'un an, c'est-à-dire la fin de la guerre, de la guerre franco-allemande, puis l'arrivée des Allemands. Nos parents étaient partis et évidemment, ils étaient en première ligne puisque mon père était à fond engagé avant la défaite, dans le projet atomique. Donc, il y avait l'uranium, il y avait l'eau lourde, et puis il y avait le laboratoire. À ce moment-là est venu l'Exode. Mes parents sont partis dans leur voiture vers Bordeaux.
Et tes parents étaient extrêmement célèbres à l'époque.
Exactement. Il y a eu l'occupation. La maison de mes parents à Paris a été occupée par les Allemands. Et nous, nous restions toujours en Bretagne. Et puis, à un moment, a débarré la politique de collaboration qu'ont essayé de lancer les Allemands après l'armistice. La maison de mes parents a été libérée à ce moment-là, mais nos parents nous ont fait revenir de Bretagne, et donc a commencé la période de l'occupation. Je ne peux pas exactement caler dans le temps, très peu de temps après cette époque qu'on était revenu, les Allemands ont décidé d'occuper le laboratoire de mon père. Et mon père a reçu d'un chercheur allemand, Geppner, qui est devenu plus tard le directeur de l'énergie atomique après la guerre allemand, qui était officier, qui a écrit une lettre à mon père, lui disant « Voilà, on me demande de venir dans votre labo pour l'occuper. Est-ce que vous voulez que je vienne ou pas ?» Et mon père a discuté avec ma mère. Geppner était un élève de Marie Curie avec lequel mon père avait collaboré, y compris à l'époque de la radioactivité artificielle, avec lequel il avait d'excellentes relations. Et mon père a dit, de toute façon, mon laboratoire va être occupé.
Autant que ce soit par quelqu'un de compétent.
Il a dit à Geppner, vous venez. Et Geppner est arrivé. Et Gebner a une attitude totalement exemplaire, c'est-à-dire que non seulement il a protégé mon père, mais il a protégé beaucoup de gens. Quand Gebner entendait parler du fait qu'un certain nombre de gens risquaient d'être arrêtés, il avertissait mon père. Enfin, il a franchement, dans les termes de l'armée allemande, trahi, en quelque sorte. C'est-à-dire que, par exemple, il avait réussi à obtenir qu'aucun Allemand ne puisse entrer dans le labo de mon père sans son autorisation. Et il contrôlait absolument tout pour protéger mon père.
Et ton père allait encore dans son laboratoire ?
Ah, il allait dans son laboratoire. Et c'est l'époque, d'ailleurs, où il s'est un peu lancé dans la biologie, parce que, comme il avait évidemment rapidement compris qu'il y avait des possibilités extraordinaires avec les traceurs, il s'était lancé là-dedans. Il l'a fait avec courrier. Je ne crois pas que c'est les publications qu'il a fait à l'époque sont des grandes publications, mais disons que ça faisait partie de son activité. Toujours est-il que le labo a été occupé par des Allemands. À un moment, ça doit être en 43.
Quand tu dis par les Allemands, par un Allemand ?
Non, non, il y avait plusieurs Allemands. Le problème, c'est qu'il y avait Gebner qui était le patron des Allemands, mais il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus toxiques. Donc c'était un problème. Et comme les mouvements de résistance et que mon père était engagé dans la résistance, ça créait des situations qui étaient difficiles. À titre indicatif...
Ton père était au Parti communiste déjà à l'époque ?
Il est entré au Parti communiste, je ne sais plus en quelle année, largement après le pacte germano-soviétique, bien sûr. Il a dû entrer en 1942 au Parti communiste, je pense. À ce moment-là, il s'est lancé dans la résistance. Mon père a été, et ça je m'en souviens, à 6h du matin, une voiture est arrivée à Sceaux, et c'est là la Gestapo qui est venue arrêter mon père. Et là, on a passé une très mauvaise journée. Et mon père a été conduit au siège de la Gestapo pour être interrogé. Et là, c'est quelque chose de stupéfiant. Le principal reproche qu'on a fait à mon père, c'est d'être l'inventeur de la bombe à phosphore, la bombe incendiaire qu'utilisaient les Alliés pour bombarder les villes allemandes. Mon père n'avait évidemment rien à voir avec les bombes à phosphore.
Donc il n'était pas au courant que ton père était
résistant. Il n'était absolument pas au courant. Et pour montrer, c'est intéressant, la nullité des services de renseignement, c'est la même chose d'un côté comme de l'autre, un des reproches qui lui était fait, votre femme n'est même plus française. Ils avaient confondu F. Curie et ma mère. Alors que ma mère dirigeait, était présente dans son laboratoire, l'Institut d'uranium, ils confondaient ma mère. Enfin, c'est invraisemblable, c'est-à-dire que visiblement, les Allemands d'un Gestapo comme... Toutes les informations qu'il avait, ou elles étaient délirantes, ou sans aucun rapport avec la réalité.
Tu me dis que dans ce laboratoire, il y avait donc ton père qui travaillait, qui faisait de la science, et il y avait aussi ce Gebner, c'est ça ?
Oui.
Qui travaillait aussi.
Oui.
Alors, donc, qui était lui aussi compétent en science, d'après ce que j'ai compris.
Ah, non seulement il était compétent, mais pour tout dire, c'est les Allemands qui... Mon père avait acheté un cyclotron, et c'est en partie les Allemands qui ont réussi à mettre au point le cyclotron. La seule règle était que aucune recherche ne pouvait être dirigée dans un but militaire. Par exemple, le cyclotron, il était destiné en particulier à faire des radioéléments et des choses qui intéressaient mon père à l'époque, c'était la biologie.
C'est-à-dire que ton père avait des conversations scientifiques avec ce Gebner ?
Ah, tout à fait. Je pense qu'ils étaient très proches. Ils se voyaient en dehors du laboratoire, dans des lieux secrets, pour qu'il n'y ait pas de chance qu'on écoute leurs conversations. Et c'est, disons que Gebner s'est comporté d'une manière exemplaire.
Mais il n'empêche que dans ce laboratoire, il y avait aussi un certain nombre de personnages que tu as qualifiés tout à l'heure de toxiques.
Oui.
Donc il y avait aussi des Allemands qui étaient, pour le coup, plus intéressés par...
Je me souviens plus de l'Union, il y en avait un qui était connu.
Est-ce qu'ils sont venus pour piller, on peut dire, les idées de ton père ?
Je ne pense pas. De toute façon, les moyens... À part la mise au point du cyclotron, les moyens qui étaient en jeu étaient quand même très faibles à cette époque. Et je pense que, sur le plan scientifique, il n'y a pas eu grand-chose de réellement significatif. Toujours est-il qu'en 1944, mon père, on a averti, je ne sais plus exactement comment, que la situation commençait à devenir critique. Donc mon père a décidé de nous évacuer. On a commencé par évacuer Langevin, qui était en résidence surveillée à Troyes, qui a été emmené par un groupe de résistance pour passer la frontière.
Il devait être très âgé, non ?
Oui. Donc ça a été une opération très difficile. Et la même équipe s'est occupée de nous. À la fois, mon père a quitté le laboratoire et a pris un faux nom et a continué dans la résistance, mais en dehors du laboratoire. Et nous, on est partis, soi-disant, vers la Suisse. Là où on se trouve en face de comportements incroyables, ma sœur allait passer son bac. Et avant de partir en Suisse, ma mère a eu l'idée de génie que c'était important que ma sœur passe son bac. C'est-à-dire qu'au lieu de partir directement en Suisse, on est resté dans une petite village près de Montbéliard. Et en fait, tout le monde savait qui on était. Et ma sœur a été passer son bac. Le soir où elle est revenue de son bac, le groupe de résistance nous a pris en charge pour nous emmener, et on a pris le car pour se diriger vers la frontière dans la zone où on devait passer. Or, ce jour où ma sœur est revenue, c'était le 7 juin. Et le 8 juin, nous sommes arrivés dans une ferme qui se trouvait à quelques kilomètres de la frontière. Et le 8 juin, comme vous n'ignorez pas, il s'est passé quelque chose. Et à partir du 8 juin, il n'était plus possible de circuler. Donc, c'est-à-dire qu'on est passé juste avant que tout soit bloqué. On est arrivé le 7 juin et le 8 juin, on est parti dans la montagne avec ma mère. Et quand on est arrivé, il y avait des officiers des services de renseignement suisses qui nous attendaient à la borne frontière. Ils nous ont emballés, mis dans une voiture et on nous a mis directement en prison. Et j'ai été avec ma sœur et ma mère en prison. J'ai connu la Suisse.
Mais une prison suisse, ça doit être une prison confortable.
Alors, c'était une prison où ils mettaient tous les gens qui passaient. Ma mère avait pris un ou deux bouquins, deux gros bouquins de science qu'elle avait portés sur son dos. Ça lui paraissait plus important que toute autre chose. Donc, elle a demandé du papier, elle travaillait. Tout se passait bien. Moi, je les emmerdais parce que je n'avais pas l'habitude d'être en tôle, même si on était bien traité, je n'étais pas content. 5 jours après, le préfet est passé, a découvert qu'une femme prix Nobel était sur la paille et a décidé de nous mettre en prison dans son appartement.
J'aimerais qu'on discute de ce qui s'est passé après la guerre, en particulier d'un point de vue coopération scientifique entre ton père et les savants allemands.
Alors, avec les Allemands, ça, je pense que, très curieusement, à ma connaissance, mon père n'a... Je pense qu'il a eu très peu de contact avec les Allemands. Je sais qu'il est venu en Allemagne. Dans la zone d'occupation française, il y avait un des sites nucléaires. Et c'est une histoire amusante parce que mon père, Francis Perrin et Pierre Auger ont été chargés de faire une enquête. Et comme c'était une zone d'occupation militaire, mon père a été nommé commandant et s'est habillé en commandant. Francis Perrin s'est habillé en capitaine. Tous les deux avaient fait leur service. Et Pierre Auger, qui avait été réformé, il était simple lieutenant. Et ils sont tous trois partis pour inspecter ceci, dont ils ont ramené un bloc d'uranium qui a été un de mes jouets favoris pendant toute mon enfance, un bloc comme ça qu'on a toujours. Je pense qu'il y a eu très peu de contact après la guerre avec les Allemands.
Après notre conversation, Pierre Joliot m'a envoyé un petit message pour me préciser sa pensée. Il me dit qu'il a appris par sa sœur que son père avait repris contact avec Gentner en 1945, alors qu'il était directeur du CNRS. Gentner était présent dans la zone allemande occupée par la France, et son père lui a demandé de prendre en compte la reprise de contact entre les scientifiques allemands et français. Gentner a refusé de jouer ce rôle en craignant, probablement, d'apparaître comme un collaborateur des occupants français. Ce point est en effet important car il montre que son père s'est préoccupé très tôt de renouer des contacts avec les chercheurs allemands
et également montre sa confiance en Gentner.
Ce qui a été une réussite exceptionnelle après la guerre, dont est responsable en grande partie Rapkin, dont vous avez probablement entendu parler, c'est la manière dont Rapkin a réussi. Il a contacté mon père. Mon père a décidé, comme il avait été nommé au commissaire à l'énergie atomique, tout le problème était de remettre ensemble les scientifiques qui étaient restés et les scientifiques qui étaient partis. Aucun des deux ne savait exactement comment ça allait se passer. Rapkin a monté son opération d'une manière amusante. Tous les scientifiques français étaient partis en Angleterre et travaillaient dans les services de l'armée. Il les a tous convoqués, et mon père est arrivé et a retrouvé Francis Perrin, Pierre Auger, Kowarski, en fait, tous les anciens membres de son équipe, et tout s'est ressoudé. Et ce qui a vraiment permis le démarrage du CEA, c'est cette réussite, c'est-à-dire de réunir totalement, alors qu'ils avaient des opinions et tout très différentes, de refaire un ensemble cohérent qui a permis la construction de Zoé très rapide.
Donc ça, en quelle année ?
Mon père a été nommé le jour de la libération directeur du CNRS, et il a dû rester un an, donc il a dû être nommé par De Gaulle au CEA, au commissaire. Je rappelle qu'à l'époque, le patron, c'était le haut-commissaire et pas l'administrateur. Ensuite, mon père, il a fallu environ 3 ans pour construire Zoé. Puis ensuite, comme mon père avait pris des positions très fortes en disant qu'il ne voulait pas faire de...
Des armes.
Il a été viré avec perte et fracas du CEA. C'est Francis Perrin qui l'a remplacé. Et je dois dire que Francis est venu voir mon père, j'étais là, en disant « Est-ce que je dois accepter de te succéder ?» Et mon père lui a dit « Oui, mais la première chose qu'ils feront, c'est d'essayer de vider l'autorité scientifique et de le remplacer par l'autorité de l'administrateur. Donc tu dois te battre pour garder le pouvoir, ce que n'a pas fait Francis, et ce qui a été un échec. » Dans les anecdotes qui sont quand même intéressantes, les contacts entre De Gaulle et mon père avaient été extraordinairement positifs. Quand De Gaulle est revenu au pouvoir, ça a été la période de la guerre froide qui a été extrêmement difficile pour mes parents, parce qu'ils étaient vraiment mis à l'index de beaucoup de choses. Au CEA, leur nom avait été totalement effacé.
Pour raisons politiques.
Bien sûr. Quand De Gaulle est revenu au pouvoir, il a visité le commissariat à l'énergie atomique. Et ça, c'est une histoire que j'adore. Il y avait un vieil ingénieur communiste qui apprend que le président du conseil, à l'époque, allait visiter, qui dit « Je vais faire une provocation ». Il met un grand portrait de mon père qu'il affiche. De Gaulle arrive avec toute l'équipe du CEA, s'arrête, regarde le gars et dit « Ah, ça me fait plaisir de voir quelqu'un enfin qui reconnaît ». Et il se met à faire un éloge devant les responsables du CEA de l'époque médusés, un éloge de mon père. Et toutes les brimades d'un seul moment contre mon père a disparu. Et au moment de la mort de mon père, De Gaulle lui a attribué des obsèques nationales.
En 1943, Francis Poulenc compose la cantate « Figure humaine », dont le 8e chant reprend le célèbre poème de Paul Éluard, « Liberté ».
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.